18h. Le journal de 18h. Emmanuel Amani.
C'est l'heure du journal de 18h. Voici les titres. La plateforme éducation-formation menace de déposer un préavis de grève en cas de non-prise en compte de leurs revendications par le gouvernement. Vous aurez dans ce journal les propos du président national de cette plateforme. Dans quelques heures, la communauté musulmane célébrera le Maouloud, ou la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, une fête placée sous le signe de la lutte contre la dépravation des mœurs. Et puis l'actualité hors du pays nous conduira au Niger où la France a rappelé son ambassadeur à Niamey et acté le retrait de ses troupes du pays. Sur la question, vous aurez le décryptage de Dr Bangali Ngoran, enseignant à l'université de Daloa. Vous êtes bien sur Radio de la Paix. Le centre de recherche politique d'Abidjan est en tournée sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les populations. En ce sens, il a organisé le jeudi 21 septembre 2023 un séminaire de formation à Abidjan qui s'inscrit dans le cadre d'un projet intitulé « Initiative citoyenne pour la construction de la nation ivoirienne » et initié avec le soutien de National Endowment for Democracy, une fondation américaine. Entamé l'an dernier, ce projet est prévu pour s'achever en avril 2024 sur les objectifs, les attentes et le contenu de ce programme. On écoute les explications de Dr Flan Moké-César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, CERPA.
Nous observons que notre pays, malheureusement, est secoué de temps en temps. Et lorsque nous regardons le déroulement même des élections locales et régionales qui viennent de se faire, on se rend compte que par endroits, il y a encore des défis inhérents à la nation ivoirienne. C'est le sentiment d'appartenir à une même communauté de destin. Malgré nos divergences du point de vue politique, nos différences au niveau religieux, au niveau culturel, nous devons être capables de former une entité. Et cette entité-là existe en raison d'un sentiment fort qui consiste tout simplement à regarder dans une même direction pour le bien-être commun. Ce projet est composé de deux aspects. Il y a une première phase qui consiste à visiter des localités ciblées pour plusieurs raisons. Et là-bas, nous organisons un séminaire de renforcement des capacités et un panel précédé d'une projection de film. L'un portant sur la naissance de la nation américaine et l'autre portant sur les enjeux et les défis de la construction de la nation ivoirienne. Et nous rencontrons des cibles composées de jeunes principalement. La deuxième phase qui commence en octobre pour prendre fin en avril 2024 va consister à la présentation d'un document d'orientation. Et ce document d'orientation-là va traiter véritablement des facteurs ou des vecteurs anti-construction de la nation ivoirienne. Et à partir de ces éléments, nous allons faire des propositions de solutions, des suggestions d'action.
Flan Moké-César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, CERPA, dans des propos rapportés par Marthe Kakou. La plateforme Éducation-Formation, une organisation regroupant 15 syndicats du secteur de l'éducation nationale, menace de déposer un préavis de grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites par le gouvernement. Alain-Charles Kla, président national de cette plateforme, a été joint par Jean-Mélène Bitti. Il revient sur l'essentiel de leurs revendications.
L'achèvement du profil de carrière, les suspensions de soldes et les ponctions de salaire suite à une grève de 3 jours en 2020 de 353 enseignants. À qui on a suspendu le mois entier pour avoir fait 3 jours de grève, c'est injuste et ce n'est pas proportionnel au temps non travaillé. La question des primes sectorielles. À l'éducation nationale, il n'y a aucune prime. Alors que dans tous les autres secteurs, il y a des primes trimestrielles qui permettent aux travailleurs d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. La troisième chose que nous voulons dénoncer, c'est que nous avons fait les états généraux de l'éducation nationale. Jusqu'à présent, nous n'avons pas les résultats et nous n'avons même pas l'onde d'une application. Nous demandons à ce que les conclusions des discussions sectorielles soient mises à disposition et que nous voyons leur application. Rien n'a changé au ministère de l'éducation nationale. On a les classes pléthoriques, on a les horaires surchargés. Tous ces problèmes sont exactement au même niveau qu'il y a 2 ou 3 ans, alors qu'on pensait que les régionales devaient nous régler les problèmes. Voilà un peu ce que nous demandons et nous avons l'impression que nous ne sommes pas écoutés. On ne fait que nous distraire. Si rien n'est fait, nous allons aller jusqu'à cet arrêt de travail parce que c'est vrai, la trêve sociale privilégie le dialogue. Donc nous privilégions le dialogue dans la résolution des problèmes, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule voie. Il y en a d'autres qui sont constitutionnels que nous avons le droit d'appliquer si rien n'est fait.
Vous venez d'écouter Alain-Charles Clat, il est le président national de la plateforme Éducation-Formation et il est interrogé par Jean-Mylène Bitti. Lutte contre le travail des enfants, l'Afrique doit disposer de données actualisées et fiables. C'est l'intérêt de l'atelier régional qu'organise l'OIT en collaboration avec la Commission de l'Union africaine à Abidjan du 25 au 29 septembre 2023. Junior Cardin était à l'ouverture de cet atelier qui réunit 24 pays africains. Son compte rendu.
Les statistiques sont lourdes en ce qui concerne le travail des enfants dans le monde et en Afrique, a reconnu Dan Cunha, directeur par intérim du Bureau régional Afrique de l'OIT.
Au niveau mondial, 160 millions d'enfants, dont 63 millions de filles et 97 millions de garçons étaient engagés dans le travail des enfants au début de l'année 2020. L'Afrique est fortement touchée par ce fléau, avec 92 millions d'enfants africains dans le travail des enfants.
Ce sont des estimations globales publiées par l'OIT et l'UNICEF que juge préoccupante Minoru Ogasawara, conseiller technique principal du projet Axel Africa, qui œuvre sur la question du travail des enfants en Afrique.
Il y a vraiment une situation assez préoccupante parce que vraiment le progrès que nous avons fait en termes de réduction du travail des enfants est inversant en termes de taux de travail des enfants, même le chiffre absolu des enfants qui travaillent sont en train d'augmenter en Afrique.
Mais les données fiables manquent dans le plan d'éradication du travail des enfants dans la plupart des pays africains, au dire de Dan Cunha.
Dans beaucoup de pays, on n'a pas encore fait des enquêtes ciblées bien sûr le travail des enfants, ce qui fait qu'il n'y a pas des statistiques, disons, fiables. Nous, notre but au BIT, c'est de les encourager à renforcer leurs capacités et puis de venir avec des statistiques à jour. Parce que sans des statistiques bien précises, c'est difficile de dégager des stratégies justement pour combattre le travail des enfants.
Ce qui explique donc cet atelier de 5 jours qui prendra fin le 29 septembre et qui regroupe des experts venus de toutes les régions de l'Afrique.
Les fonctionnaires et agents de l'État ayant atteint l'âge de la retraite selon leur catégorie devront, au plus grand tard, le 30 septembre 2023, libérer leur poste. C'est ce qui ressort de la note circulaire produite par le Premier ministre le 22 septembre 2023, mesure saluée par le responsable de la centrale plateforme nationale des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire, Théodore Zadi Nyanya.
Le Premier ministre, mais d'abord le président de la République, ne fait que rappeler les dispositions légales en matière de mise à la retraite des fonctionnaires agents de l'État. Or, le constat a été fait que certaines personnalités, quoiqu'elles aient été frappées par la limite d'âge, continuent d'exercer dans l'administration publique. Donc ce courrier-là interpelle tous les responsables administratifs qui maintiennent encore dans leur service des fonctionnaires qui devraient logiquement être mis à la retraite. Au plus tard le 30 septembre pour respecter la loi, simplement. Et même ces personnalités à la retraite continuent d'occuper des postes importants dans l'administration. Des fonctionnaires qui devraient être mis à la retraite. Au plus tard le 30 septembre pour respecter la loi. On peut estimer que c'est brusque, mais je pense que toutes les négociations, les administrations concernées peuvent rentrer en contact avec le Premier ministre pour demander un délai supplémentaire. Mais c'est le juste respect des choses et c'est un rappel à l'ordre. Et je pense que le Premier ministre est un peu exaspéré en donnant un tel délai aussi proche.
À l'instant, le responsable de la centrale plateforme nationale des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire, Théodore Zadi Nyanya. 35 organisations de la société civile à travers le projet Benkadi veulent renforcer la résilience des populations rurales face au changement climatique et interpellent les autorités pour que la réforme du Code de l'environnement soit finalisée afin que le décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral soit pris et surtout que le plan national d'adaptation sur le changement climatique soit une réalité en vue d'éviter d'être désorienté en cas de catastrophe naturelle. Oscar Zadier est chargé du projet Benkadi pour la Côte d'Ivoire. Il répond aux questions de Mata Touré.
Vous voyez que notre littoral est véritablement menacé. De Tabou à Assini, la dynamique des traits de côte évolue d'un à trois mètres. Donc nous appelons l'attention de l'État sur ses engagements. En février 2023, le gouvernement, dans sa feuille de route, a décidé de prendre le décret de création de l'ANAGIL conformément à la loi de 2016 sur le littoral. Donc nous venons appeler l'attention de nos dirigeants, de nos gouvernements à vraiment prendre ce décret-là qui va créer l'Agence nationale de gestion gestion intégrée du littoral et qui va permettre d'assurer une gestion saine, efficace et responsable de notre littoral. Aujourd'hui, sur le littoral, il y a plusieurs acteurs qui peuvent réclamer la paternité de la gestion de ce littoral. Le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère des Mines, le ministère du Transport, etc. Or, si cette agence est mise en place, il va sans dire que le littoral ivoirien sera mieux géré parce que cette agence va aussi prendre en compte les communautés qui sont impactées par les effets du changement climatique et par l'avancée de l'érosion côtière.
Les propos du chargé du projet Benkadi en Côte d'Ivoire, Oscar Zadier, ont été recueillis par Mata Touré. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la zone agro-industrielle dédiée à l'anacard de Korogo a été inaugurée le samedi 23 septembre dernier. Cette inauguration intervient dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de l'anacard PPCA, lancé en 2018 et visant à créer un cadre favorable pour l'investissement privé dans la transformation de la noix de cajou par l'aménagement des zones agro-industrielles dédiées à la transformation de l'anacard. Marcel Bonny y était pour Radio de la Paix.
L'implantation de cette zone agro-industrielle dédiée à l'anacard contribue au renforcement des infrastructures au profit des populations et industries locales, selon Adama Koulibaly, directeur général du conseil coton anacard.
L'installation d'un transformateur et accessoires non loin de la localité de Lata, ce qui renforce l'alimentation et l'électricité de la zone, la pose d'environ 2,5 km de canalisation pour la collecte des eaux usées industrielles et la construction d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité de 490 m3 par jour.
On retient aussi cet autre aspect.
L'occupation de tous les lots par des industries permettant l'insertion professionnelle des populations libérées et plus particulièrement des jeunes et des femmes, avec plus de 8000 emplois directs qui seront créés, dont 60% reviendront aux femmes.
L'aménagement de cette zone agro-industrielle vient à point nommé pour augmenter la capacité de transformation nationale, selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobinan Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre.
C'est un enjeu vital, car notre production de noix brute a franchi le million de tonnes. Il nous faudra être capable de transformer localement la plus grande proportion de ce volume afin de créer de la valeur ajoutée localement et renforcer la position du cajou dans l'économie nationale.
Retenons que des documents ont été remis à deux entreprises afin de faciliter leur implantation sur le site de cette zone agro-industrielle. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
Rappelons que la Côte d'Ivoire est à ce jour le deuxième producteur mondial de noix de cajou. La communauté musulmane célèbre dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre le Maouloud ou la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Pour l'imam Omar Sanogo, imam de la mosquée Al-Aïma de Biabou à Abobo, ce Maouloud 1445 de l'Égypte est placé sous le signe de la lutte contre la dépravation des mœurs.
Faut d'abord savoir que si nous parlons de Maulid, c'est allusion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maulid al-Nabi, ça veut dire l'anniversaire du prophète, l'anniversaire de sa naissance, qui a lieu le troisième mois, douzième jour du troisième mois de l'année lunaire. Et sa venue au monde a été tellement comme une délivrance pour l'humanité. Nous commémorons ce jour pour montrer notre gratitude à Allah le Tout-Puissant qui vraiment nous a honorés par l'envoi. Il a dit dans le noble Coran que Allah a certainement fait faveur aux croyants en prenant un messager parmi eux-mêmes. Donc sa venue a été comme une miséricorde pour eux-mêmes. Et donc, et Allah nous dit dans le même Coran, quant au bienfait d'Allah, proclame-le. Donc la particularité de cette fête, c'est d'abord premièrement nous enseigner sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa biographie. Cette année-là, la particularité est de communiquer, n'est-ce pas, sur cette déviation-là. Nous avons l'homosexualité qui est déjà elle est répandue, on a le phénomène de la drogue, on a l'assassinat, les crimes odieux et tout ça.
À l'instant, l'imam Omar Sanogo, joint par Zeynab Diomandé. À propos du Maouloud, notons que le vice-président de la République, Tiémoko Meïlé Koné, représentera le président Alassane Ouattara à la cérémonie officielle de célébration du Maouloud ce soir à 22h à la Grande Mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Actualité hors de nos frontières, retrait des troupes françaises et rappel de l'ambassadeur de France au Niger pour Dr Bangali Ngoran, enseignant à l'université de Daloa. Plutôt que de s'ingérer dans la crise au Niger en refutant la légitimité de la junte au pouvoir, la France aurait dû se rendre à l'évidence du terrain où l'exercice du pouvoir est détenu par les autorités militaires.
Au niveau des textes internationaux, les autorités qui détiennent la signature dans un État, donc qui incarnent l'État, ce sont les autorités légitimes ou les autorités légales pour émettre, par voie de correspondance officielle, une décision de retrait de l'accréditation des diplomates. Mais la France a décidé de ne pas reconnaître ces autorités-là. Mais à partir du moment où la réalité de l'exercice du pouvoir au quotidien est détenue par des autorités de fait, à partir de ce moment, cette position-là, elle se retrouvera forcément tôt ou tard dans l'impasse. Et c'est aujourd'hui le cas. Parce que la France a décidé de ne pas reconnaître ces autorités-là, donc ne pas se plier à leur injonction. Mais finalement, étant donné que ce sont ces autorités-là qui détiennent le pouvoir de police, qui détiennent le pouvoir d'administration au quotidien, mais ces autorités ont pris des dispositions pour isoler la caserne militaire qui est coupée de ses approvisionnements. C'est une réalité. Clairement, la France n'a pas compétence pour émettre un avis de légitimité ou de légalité des autorités d'un pays tiers. C'est une forme d'ingérence et je pense que ça a été toujours ça le problème dans les relations que justement la France a avec les anciens pays qu'elle a colonisés et on ne peut pas faire la solution avec ce qui constitue le problème, c'est-à-dire l'ingérence.
Vous venez d'écouter Dr Bangali Ngoran, enseignant à l'université de Daloa. Précisons que le président français Emmanuel Macron a finalement annoncé le dimanche 24 septembre 2023 le rappel de l'ambassadeur de France à Niamey et le départ des soldats français stationnés au Niger qui étaient l'un des derniers alliés de Paris au Sahel. Un retrait qui intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso où la France a déjà été poussée vers la sortie par des militaires au pouvoir. C'est ici que se referme ce journal. Voici le rappel des titres. La plateforme éducation-formation menace de déposer un préavis de grève en cas de non-prise en compte de leurs revendications par le gouvernement. Le président national de cette plateforme s'est exprimé dans ce journal. Et puis le Maouloud ou la naissance du prophète de l'islam Mohammed sera célébré dans quelques heures par la communauté musulmane. Une fête placée sous le signe de la lutte contre la dépravation des mœurs. Merci de vous informer sur Radio de la Paix. L'info revient dès demain 7h, mais tout de suite, Aoussi Potin vous propose mon droit au quotidien.